qui aborderait ce sujet-là, j'ai réalisé que probablement le texte de Romains 10 était celui qui était le plus approprié par rapport à mon sujet. Alors, la prédication de ce matin va s'incorporer dans notre série sur l'Épître aux Romains. Je l'ai appelée Parlons des pieds. Hein? C'est un sujet important, hein? Parlons des pieds. Donc, avant de commencer à étudier notre texte, évidemment, bon, les enfants, j'ai pensé à vous autres et les adultes aussi, je pense qu'on aime ça avoir nos petites images. Donc, j'ai trouvé quelques images des pieds. La première, j'ai l'impression que la personne s'est fait jouer un tour. Du moins, j'espère qu'il s'est fait jouer un tour. Hein? Si on voit qu'est-ce qui est écrit sur ses pieds, hein? Il est en train de se marier. Je ne sais pas s'il est mal pris, s'il est forcé de se marier ou quoi, ou probablement que ses amis ont trouvé ça drôle de faire un petit tour. Quand t'en as, tu peux l'installer comme il faut pour pas jouer avec lui. La deuxième image, je ne sais pas trop quoi en dire. Enfin, je vais vous laisser juste la regarder. Hein? Donc, c'est une paire de souliers spéciales. Je ne sais pas à quoi ils servent finalement. C'est quand tu mets tes souliers, tu es encore nu-pied. En tout cas, c'est le genre d'invention inutile, n'est-ce pas? La troisième, celle-là, ça nous dit pourquoi ne pas porter des crocs quand on s'en va sur la plage. Voilà le résultat qui peut en sortir après une grosse journée de soleil, en gardant nos crocs dans nos pieds. Et finalement, la prochaine, je vous le dis tout de suite, n'en parlez pas à la santé publique, s'il vous plaît, parce qu'ils pourraient trouver que c'est une bonne idée, mais lorsqu'on va à la plage, hein, on pourrait porter des gants dans nos doigts de pied, effectivement. Maintenant, sur une note plus sérieuse, voici notre histoire de la semaine. Donc, c'est Tom Mercer qui l'a rapporté cette histoire-là dans une de ses prédications. Il dit, il y a quelques années, j'ai entendu une histoire assez incroyable. C'est un gars qui, en traversant une intersection dans une grande ville, a aperçu un agent qui était en train de faire la circulation au milieu de tout ce trafic-là. Et il y avait quelque chose qui le poussait dans son cœur de dire, va dire au policier que Dieu l'aime. Bon, mais la personne était un petit peu gênée, un petit peu intimidée de ça, mais là, c'est un agent de police, c'est quand même. Il a résisté. Il a résisté, il n'est pas allé voir l'agent. Mais en continuant ça, sur le trottoir, plus il avançait, plus l'idée le hantait qu'il avait désobéi à ce que l'esprit lui demandait de faire. Donc, il est revenu sur ses pas. Il est revenu à l'intersection. Il est allé voir l'agent en plein milieu de l'intersection. Il lui a dit, il dit, Monsieur l'agent, je pense que le Saint-Esprit me pousse à vous dire que Dieu vous aime. Alors, l'agent de police, l'homme s'est rendu compte qu'en arrière de ses grosses lunettes de soleil, commençaient à couler des grosses larmes. Il a dit à l'homme, il dit, savez-vous quoi? Il dit, ça fait des années que je n'ai pas prié. Et hier soir, j'ai fait une prière à Dieu. Et j'ai dit à Dieu, si tu existes, la moindre des choses, ce serait que tu envoies un de tes enfants me dire que je compte pour toi. Hein? Alors l'agent de police a demandé de, pas des renforts, mais de se faire remplacer pendant quelques minutes. Ils sont allés ensemble sur le bord de la rue, et là, sur le coin de la rue, l'agent de police s'est converti au Seigneur, ils ont prié ensemble. Hein? Quelle histoire incroyable! Des fois, puis ça vous est sûrement déjà arrivé, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression, là vous vous sentez poussé, il y a quelque chose qui, vas-y, vas-y, dis-le, dis quelque chose. Puis des fois on résiste, des fois non, mais c'est un bel exemple. Comment on peut obéir à Dieu, puis Dieu peut nous utiliser d'une façon vraiment extraordinaire. Ici, c'était vraiment flagrant, évidemment. Alors, On va tourner ce matin dans Romains 10, mais avant, on va prier. On demande au Seigneur de nous aider, nous éclairer dans cette étude de sa parole. Oui, Seigneur, merci de ce privilège qu'on a encore d'ouvrir les Écritures ensemble ce matin. Merci du privilège qu'on a de se réunir, de s'assembler. Et Seigneur, certainement, je veux te demander que ce texte de ce matin, Seigneur, dans Romains 10, puisse faire une différence dans chacune de nos vies. Utilise ces passages pour nous encourager, nous édifier, nous motiver, Seigneur Dieu, à aller. Et Seigneur, certainement, utilise ma bouche aussi dans ta grâce pour bien communiquer la richesse de ce texte. Et c'est en Jésus que je te le demande. Amen. Donc, on va tourner au fur et à mesure qu'on va progresser dans notre texte. Mais rappelons-nous que dans les 9 premiers chapitres de son épître, Paul est en train de nous exposer l'Évangile qu'il propageait un peu partout. Donc, on a vu que le but de l'épître, c'était de présenter l'Évangile que Paul annonçait. Et à partir du chapitre 10, on va de plus en plus aller dans les implications de cet Évangile. Quelle différence l'Évangile peut faire dans notre vie, la vie de chacun de nous, à chaque jour, dans notre quotidien. Et le texte de ce matin, c'est justement, il ne faut pas oublier que c'est dans ce contexte-là que l'Évangile que Paul vient de nous présenter fait une différence dans nos vies. C'est par l'Évangile qu'on va être capable de faire ce que l'apôtre nous présente ici. Donc, premièrement, par la puissance de l'Évangile, là, je n'ai pas donné aucun cue. Donc, quand vous entendez le petit ding, c'est que c'est l'heure de tourner la page. Donc, on est rendu à la 9e diapositive, pour ceux qui nous écoutent. Nous avons un rôle d'intercession envers nos contemporains. Excusez-moi. Nous avons un rôle d'intercession. Donc, excusez-moi, j'en avais sauté une. On va lire les versets 1 à 4 ensemble, de Romains 10. Il dit, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Donc, évidemment, Paul vient d'expliquer pourquoi les Juifs ont rejeté le plan du salut que Dieu avait pourvu pour eux en Jésus. Mais lui-même, Paul, est un Juif et d'origine juive. Donc, quand il est dit au verset 1 qu'il prie pour eux, il est en train de prier pour les gens de sa propre nation, ceux qu'il avait particulièrement à cœur. C'était les siens. Donc, Paul a un vif désir du cœur de les voir se convertir. Ça se traduit par un élan de prière. Paul prie certainement pour leur repentance, pour une conversion, un virage à 180 degrés, complètement changé de direction. Et évidemment pour leur salut, le salut de sa propre nation. Paul reconnaît par le fait même qu'ils sont zélés, que les Juifs sont zélés pour Dieu. Mais leur zèle ne rencontre pas les standards que Dieu a établis. Standards que Dieu vient de que Paul vient de nous présenter, ou Dieu à travers Paul, dans les 9 premiers chapitres. Il vient de nous présenter c'est quoi le standard de Dieu pour aller au ciel. Et le peuple d'où originait Paul ne voulait pas respecter ce standard. Leur zèle n'était pas bien canalisé. Parfois, quand on prêche l'Évangile, les gens vont nous apporter l'argument que les gens qui nous entourent sont bien intentionnés, hein, que ce soit dans leur pratique, dans leur religion, qu'ils sont zélés pour Dieu et que Dieu ne pourrait pas ne pas en tenir compte. Souvent, c'est un argument qu'on entend. Hein, Dieu, cette personne-là est tellement bonne, Dieu ne pourrait pas ne pas en tenir compte. Mais imaginez-vous que vous rêvez d'aller à Paris. Mais que vous prenez l'avion pour le Brésil à la place. Donc, vous avez beau avoir la meilleure volonté du monde, être zélé comme ça se peut pas pour aller à Paris, mais vous avez pris un vol dans la mauvaise direction. Le pilote ne vous débarquera pas à Paris, même si vous aviez les meilleures intentions du monde. On a ensuite, à la fin de ce petit passage, au verset 4, ça nous dit, c'est une merveilleuse affirmation, hein, qui dit « Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. » C'est là effectivement toute une affirmation, puis c'est un beau résumé en même temps de tout ce qui précède dans l'Épître. Mais on comprend que Paul n'est pas en train de dire qu'il n'y a plus rien de bon dans la loi, il n'y a plus rien de valide dans la loi. Il est juste en train de dire que la loi va nous être inutile pour notre justification. Ce n'est pas la loi qui va nous justifier devant Dieu, c'est Christ lui-même. C'est là le mauvais canal ou le mauvais chemin que voulaient emprunter les Juifs, ses contemporains, et pour lesquels Paul est en train de dire qu'il prie. Les gens autour de nous, aujourd'hui, veulent encore emprunter le même mauvais chemin, le chemin de la loi, le chemin des œuvres, comme les Juifs de l'époque de Paul. Il nous faut donc intercéder pour eux afin que leurs yeux s'ouvrent, afin qu'ils écoutent et qui comprennent le puissant message de l'Évangile. Donc ça, c'était le premier point de notre texte. Deuxième point, on va lire les versets 5 à 13 ensemble, qui nous disent, « En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui met ces choses en pratique vivra par elle. » Évidemment, on a vu dans les 9 premiers chapitres que c'est impossible de respecter la loi, que personne n'est capable de la respecter. Donc, c'était une possibilité impossible. Ça se dit-tu? En tout cas, on va le dire. Verset 6. « Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, c'est d'en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est d'en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc, Paul nous rappelle ici, dans les versets 5 à 13, le seul vrai Évangile, celui qui l'annonce et qui s'obtient par la foi. Depuis bien des années, moi, je pensais que ce texte-là nous parlait de ne pas dire « OK, mon grand-père, est-ce qu'il est au ciel ou est-ce qu'il n'est pas au ciel? » ou « OK, la personne qui vient de décéder, est-ce qu'elle est au ciel présentement ou pas? » Je pensais que c'était ça le contenu de ce texte, mais en l'étudiant et en regardant plus les commentaires, Et le contexte, évidemment, c'était ce que les Juifs se disaient, finalement. Ils se demandaient, dans le fond, jusqu'à quelle extrémité je devrais aller pour pouvoir entrer au ciel. Est-ce que je devrais aller jusqu'au ciel ou est-ce que je devrais aller jusque dans les profondeurs de l'abîme pour pouvoir entrer dans le ciel? Et Paul répond aucune de ces réponses. Parce que Christ a tout accompli. Autant de descendre, de remonter d'entre les morts que de remonter au ciel. Tout est déjà accompli en Jésus-Christ. Et on voit ensuite qu'il y a deux conditions essentielles pour rentrer au ciel. De croire et de confesser et de croire. Pour revenir à notre voyageur de tout à l'heure, celui qui voulait aller évidemment à Paris. Donc, disons qu'il a tout fait. Il a déjà son billet d'avion en main. Et disons qu'il s'est déjà rendu à l'aéroport, et au bon moment, évidemment, pas une journée avant ni une journée après. Il pouvait même avoir confiance que l'avion était capable de l'amener jusqu'à destination. Il a toute la confiance du monde. Mais s'il n'est pas monté dans l'avion, eh bien, ça ne lui sert à rien. Il va avoir toute la connaissance du monde. S'il n'a pas posé le geste d'entrer dans l'avion pour Paris, il ne se rendra jamais à Paris. Ou si l'avion, le vol a été cancellé à cause de la COVID-19, il ne se rendra jamais à Paris. Toutes ces conditions sont indispensables pour qu'il puisse se rendre à bon port. Et notre bon port ici, c'est le ciel, la vie éternelle avec Dieu. Donc, tu as beau affirmer que tu es chrétien, que tu es un enfant de Dieu, que tu es né de nouveau. Mais si tu ne crois pas dans ton cœur, ça ne te sert à rien. Donc, bien que ta bouche le dise, tu dois aussi le croire dans ton cœur. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Et ces deux conditions sont en fait la dernière phrase du verset 13, de confesser, de croire, c'est résumé par invoquer. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Donc, oui, Seigneur, je crois à ton sacrifice. Puis oui, Seigneur, je veux cette vie éternelle. Oui, j'accepte ce don de Jésus-Christ à la croix pour moi. Donc, c'est ça, d'invoquer le Seigneur, de confesser et de croire dans notre cœur. Troisièmement, les versets 14 et 15 de notre texte nous disent « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit « qu'ils sont beaux les pieds, les voilà, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Comme on l'avait constaté au chapitre 9 de Romains, si vous vous rappelez bien, au verset 11, il y avait un texte qui nous disait « Afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. » Donc, quand on lit un texte comme celui-là, on a l'impression que d'être sauvé ou de ne pas être sauvé, c'est une fatalité. Tu peux faire ce que tu voudras, si tu n'es pas écrit dans le livre, tu ne pourras jamais te convertir. Donc, c'est un petit peu la saveur que nous donnait ce texte-là ici. C'est ce qu'on appelait aussi, là, on avait aussi appelé la position calviniste, dont on avait parlé ensemble. Mais les versets du chapitre 10 que nous venons de lire, semble nous donner le son de cloche opposé. En effet, au verset 9, on voyait que la personne doit croire, doit confesser et croire publiquement, évidemment, confesser publiquement, mais que ici, on voit que les gens ne pourront pas se convertir si personne ne leur prêche. Donc, On voit donc à la fois que la personne doit poser certains gestes pour être sauvée et aussi que d'autres des personnes doivent venir pour lui présenter l'Évangile. Et ça, c'est plutôt la position arminienne. Mais je vous ferai remarquer que ces deux textes-là sont deux chapitres qui se suivent dans le même épître, écrit par la même personne et pas mal dans les mêmes temps. Hein? Et ça semble vraiment des sons de cloche vraiment opposés. Mais pourtant, il n'en est rien. Il ne faut jamais tirer des conclusions trop hâtives sur des textes. On ne peut jamais tirer la conclusion que l'homme n'a aucune part à jouer pour son salut, ni non plus de dénier la souveraineté totale de Dieu. Ces deux vérités sont là même dans le même épître, dans les deux chapitres qui se suivent, c'est là. On ne peut pas le nier. L'un ne va pas sans l'autre, et l'un n'enlève rien à l'autre non plus. Et évidemment, comme on l'a dit, c'est ici qu'on parle des pieds. Au verset 15 de notre texte. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Un pied, c'est rarement beau, hein? Comme on les voit ici sur l'écran, c'est souvent sale. Hein, des pieds, c'est probablement, en tout cas, mon avis personnel, la partie du corps la plus répugnante. Hein. C'est souvent sale, comme on l'a dit, ça sent souvent pas bon. Et effectivement, je disais qu'il y a 2600 glandes dans les pieds qui produisent l'humidité qu'on voit dans nos bas ou l'odeur qu'on sent quand on enlève nos chaussures. Puis c'est pas long, on prend notre douche et deux heures après, on a déjà des odeurs. Mais pourtant, il parle ici que les pieds sont beaux. Mais ici, on parle des pieds de ceux qui annoncent la paix, qui annoncent de bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que quand on les voit arriver, ces pieds-là, on est déjà content. On est déjà heureux de les voir arriver parce qu'on sait, même avant qu'ils nous parlent, qui vont nous parler de la bonne nouvelle, qui vont nous expliquer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Est-ce qu'il existe un plus beau message que celui-là, frères et sœurs? C'est pour ça que même les pieds de ceux qui portent cette nouvelle-là sont beaux, sont extraordinaires. On aime ça, voir même leurs pieds, même cette partie-là du corps est agréable. Pour nous. Quatrièmement, on voit que, évidemment, j'ai oublié de mentionner, mais on a une responsabilité d'aller leur parler, c'est ça que le texte nous dit, et on peut le faire par la puissance que nous communique l'Évangile qu'on a vu tout à l'heure. Quatrièmement, Paul redonne la responsabilité aux Israélites. Lisons les versets 16 à 21. Il dit, « Mais tous n'ont pas oublié la bonne nouvelle. » Aussi, Ésaïe dit, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël, ne l'a-t-il pas su? Moïse, le premier, dit, « J'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. » Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Mais au sujet d'Israël, il est dit, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Donc, Paul conclut son chapitre en rappelant qu'Israël est pleinement responsable du rejet de Christ et par le fait même du rejet du salut de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas entendu la bonne nouvelle qu'ils ne se sont pas convertis. Ils l'ont entendu de la part de Jésus. Ils l'ont entendu de la part de Paul. Ils l'ont entendu de la part de Pierre, des autres évangélistes. Mais ils n'ont pas voulu obéir à la bonne nouvelle. C'est ce que le verset 16 nous révèle. Ils n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ils l'ont entendu, ils l'ont su, mais ils n'y ont pas obéi. Ils ont préféré continuer à suivre leur propre voie. C'est pour ça que Dieu a excité leur jalousie par la conversion de ceux que les Israélites eux-mêmes méprisaient, les païens, c'est-à-dire nous-mêmes, nous, aujourd'hui. Ce n'est pas que Dieu ne les a pas appelés, hein, parce que le chapitre se conclut en disant que tout le jour, Dieu a tendu les mains pour les appeler à lui. Tout le jour, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. Dieu veut qu'ils viennent à lui, venez, venez. Mais eux, non, ont préféré se rebeller, ont préféré trouver d'autres chemins que celui que Dieu leur donne gratuitement, que Dieu place devant eux. Alors, comme nous l'avons dit plus tôt, il faut toujours garder un équilibre. Un équilibre entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Ainsi, comme enfants de Dieu, nous sommes appelés à intercéder pour le salut de nos contemporains, de ceux qui nous entourent, parce que si l'Esprit ne les attire pas, si l'Esprit ne les convainc pas de péché, de justice et de jugement, on aura beau dire ce qu'on voudra, faire ce qu'on voudra, ça ne servira à rien. Donc, on reconnaît la souveraineté de Dieu là-dedans, mais on a un rôle à jouer, d'intercéder pour eux, de supplier Dieu même de les sauver. Parce que Dieu aime quand on le prie dans ce sens-là. Et Dieu honore ce genre de prière-là, et Dieu répond à ce genre de prière. Ouvrons nos yeux aussi. Reconnaissons où Dieu est en train d'agir, où Dieu est en train de travailler dans le cœur des gens. Discernons aussi quand c'est le bon moment. Quand l'Esprit de Dieu nous pousse à parler, obéissons. Ne faisons pas comme notre chrétien de tout à l'heure, hein, à l'intersection de la rue avec le policier. Résistons pas. Quand l'Esprit nous pousse, Jacques, dis quelque chose, dis ça, dis-lui ça, faisons-le, obéissons quand l'Esprit de Dieu nous pousse à le faire. N'ayons pas honte de l'Évangile. Ah, ça vous rappelle, hein, au chapitre 1, c'est une puissance de Dieu. Et par cette puissance, allons annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à qui veut bien l'entendre. Osons dire aux gens qui nous entourent que le seul chemin pour aller au ciel se trouve en Jésus-Christ et qu'on peut l'emprunter par la foi. C'est la seule façon d'aller au ciel. Donc, osons, par le fait même, dire aux gens que tout autre chemin qu'ils empruntent, c'est le mauvais chemin. Que ça ne les mènera pas à bon port, que ça ne leur permettra pas d'entrer au ciel. Hein? Osons le dire. Donc, ouvrons les Écritures, citons-les, écrivons-les, parce que le texte nous dit que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hein? C'est juste comme ça que les gens vont pouvoir être sauvés. Parlons-leur des Écritures. Donc, en fin de semaine prochaine, c'est une belle occasion pour amener les gens qui nous entourent, ceux qu'on voudrait que Dieu sauve, les inviter. Puis c'est quelque chose de... Ça peut être intéressant. Vous connaissez un petit peu les personnes, ceux qui aiment les films d'aventure, tout le monde connaît pas mal les Indiana Jones. Ça peut être une belle occasion. En passant, je pense pas que les gens vont être déçus de toute l'organisation. On a quand même bien des éléments. Donc, invitez. Vous avez des familles autour de vous. Veux-tu venir? On a une belle fin de semaine. Si les gens sont proches, ils peuvent revenir coucher à la maison aussi. Là. Ce n'est pas un problème. Mais qu'on puisse être nombreux, qu'on puisse avoir l'occasion de leur présenter ce magnifique message de l'Évangile, qu'ils puissent entendre cette bonne nouvelle et qui sait que Dieu peut sauver des âmes. Donc, on peut certainement, déjà, cette semaine, prions que Dieu visite des personnes, que Dieu sauve des personnes en fin de semaine. Jouons notre rôle, le rôle que Dieu nous donne et par la puissance de l'Évangile. Faisons-le cette semaine. Donc, commençons déjà en priant. Eh bien, oui, Papa du ciel, certainement, on veut te reconnaître, premièrement, ta souveraineté. On veut reconnaître que si ton esprit n'intervient pas, Seigneur, personne ne sera sauvé. Mais en même temps, Seigneur, on veut te supplier pour le salut des personnes qui nous entourent, ceux qu'on aime, ceux qui nous sont chers, ceux qu'on côtoie, Seigneur, peut-être à chaque jour, que ce soit au travail, que ce soit nos voisins, Seigneur, que ce soit nos amis avec qui on aime bien passer du temps, on te supplie de les sauver. Certainement, on veut te remettre toute cette fin de semaine du camping. La semaine prochaine, entre tes mains. Premièrement, pour voir la bonne température, permet que ce ne soit pas trop chaud, Seigneur, que ça puisse être agréable, qu'on puisse, peut-être, oui, on te prie pour de la pluie, mais s'il te plaît pas la fin de semaine prochaine, qu'on puisse en avoir avant et après, ou pendant la nuit, mais qu'on puisse bien profiter de cette fin de semaine et que ce soit une occasion, qu'on puisse prêcher ton Évangile à ceux qui nous entourent, Seigneur Dieu. Que ton Évangile puisse être puissamment annoncé, que les gens puissent poser des questions, qu'on puisse avoir l'occasion, peut-être même pendant les temps fraternels qu'on va avoir autour de ça, de s'asseoir et de parler de toi, Seigneur, de présenter ce magnifique Évangile. Et c'est en Jésus-Christ qu'on veut te prier. Amen.